chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regards d'avenir et points de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un zeste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Bien, votre enfant n'a pas bien travaillé à l'école durant l'année scolaire qui vient de s'achever. Il a échoué et il doit reprendre des classes. Pour certains parents, ou d'abord pour certains enfants et parents, l'échec scolaire est quelque chose d'inacceptable. Cela peut affecter l'enfant, surtout lorsque l'échec lui attire les moqueries de ses amis, de ses frères et sœurs, et surtout les réprimandes des parents. Professeur Yaoundé Manizambi est spécialiste en sciences de l'éducation. Bonjour professeur.
Bonjour.
Alors, l'enfant a échoué à l'école, ses frères et sœurs se moquent de lui, les parents sont très fâchés, ils lui font des reproches à tout moment. Alors, quelle est la meilleure façon, c'est une bonne façon de l'aider, et quelle est la meilleure façon de l'encadrer après un échec scolaire?
Oui, merci beaucoup pour la question que vous venez de poser. Vous savez, lorsqu'un enfant a échoué et que les autres se moquent de lui, soit que les parents l'accablent de tous les maux, c'est qu'ils considèrent que la faute incombe à l'enfant qui a échoué et que l'on considère que l'échec comme étant un crime qui venait d'être commis par l'enfant. Dans ce contexte-là, on ne voit que la faute est de son côté. Et parce qu'on voit la faute de son côté, alors tout le monde pense que tout le monde, donc que ce soit les sœurs ou les frères ou les parents, pense qu'ils ont droit à pouvoir culpabiliser l'enfant, à considérer, à les traiter, à l'accabler de tous les mots, à les traiter de négligents, à considérer que c'est un enfant qui joue beaucoup plus au lieu d'étudier. C'est un enfant qui mange beaucoup alors qu'il pouvait bien exercer sa tête à étudier. Donc vous voyez, dans ce contexte-là, lorsqu'on accable l'enfant, lorsqu'on considère que la faute c'est lui qui l'a commise et que l'échec est un crime, les autres ne peuvent que manifester ce comportement dégradant.
Voilà, il manifeste ses comportements dégradants, donc c'est pas une bonne façon de l'aider.
Ce n'est pas une bonne façon, c'est-à-dire qu'il faut considérer d'abord, identifier, parce que la meilleure démarche c'est quoi? Pour savoir qu'est-ce qu'on entend par échec. L'échec est un symptôme de quelque chose qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est quoi? C'est la question que tout le monde doit se poser. Parce que, en fait, dans la vie de quelqu'un, l'enfant qui va à l'école, il va pour réussir sa scolarité. Et à la fin, il doit passer des classes. Mais cet enfant qui doit étudier et qui s'attend à ce qu'il passe des classes, mais doit-il adopter un comportement pouvant faire en sorte qu'il puisse échouer? Et est-ce de manière volontaire qu'il peut adopter ce comportement-là? Donc il y a une criale de questions que l'on doit se poser.
Oui.
Vous savez, l'échec n'est pas toujours lié à l'enfant, l'échec est lié, peut être lié aux parents, il peut être lié à l'école, là où l'enfant fréquente, il peut aussi être lié à l'État, comme aussi peut être lié à l'enseignant. Alors à partir du moment où l'on doit identifier ce qui a déclenché l'échec chez l'enfant, c'est alors qu'on saura, on l'aura plutôt à adopter des attitudes pouvant amener à voir dans quelle mesure on doit maintenant s'occuper de cet enfant pour que l'année prochaine, il ne puisse pas échouer.
Oui, il y a même certains parents qui disent tu n'auras pas un cadeau cette année, tu n'auras pas droit aux habits, aux chaussures, on va rien acheter pour toi, on va te punir, donc il n'a droit à rien. Est-ce que c'est là aide d'enfant?
Ça sont des paroles qui traduisent les signes de reconnaissance négative. Vous savez, un être humain est un être d'émotion. Un être humain a besoin d'être valorisé. Un être humain a besoin d'être sécurisé affectivement. Un être humain a besoin d'être équilibré. Cela va autant pour l'enfant qui va à l'école. Il a besoin qu'il reçoive de la société, de ses parents, de ses enseignants, de son entourage, des mots pouvant l'encourager davantage à faire mieux, à aller de l'avant. Un parent, lorsqu'il prend la responsabilité de pouvoir dévaloriser son enfant, il est tenté de le tuer psychologiquement. Parce que d'où aura-t-il encore des énergies nécessaires pour affronter ces difficultés et aller de l'avant? Et qu'est-ce qu'on cultivera dans cet enfant? Une faible image de lui-même. Et l'enfant aura aussi ce qu'on appelle les complexes d'infériorité. Que doit gagner un parent lorsqu'il est en train d'accabler son enfant et à la suite, comme résultat, l'enfant cultive les complexes d'infériorité? Comment doit-il affronter la vie? Donc les parents n'ont pas droit à injurier l'enfant, n'ont pas droit à empêcher à l'enfant de pouvoir se distraire, n'ont pas droit à priver l'enfant de ce dont il a besoin. C'est tout à fait normal qu'un parent puisse prendre en charge son enfant, mais maintenant il doit savoir que lorsqu'il prive à son enfant telle ou telle chose. Est-il sûr que l'échec obtenu par l'enfant est lié à la faiblesse intellectuelle de l'enfant? Est-ce ne considère-t-il pas aussi sa part de responsabilité dans l'échec de l'enfant? Pour passer des classes, on doit savoir que l'enfant ne doit pas être inscrit dans n'importe quelle classe. Il faut que l'enfant soit inscrit dans la classe qui correspond à ses aptitudes, de telle sorte qu'il puisse bien suivre les programmes de l'enseignement, qu'il puisse maîtriser ces programmes de l'enseignement et répondre aux questions d'évaluation. Mais lorsque l'enfant est dans une classe et lui manque des prérequis nécessaires, c'est-à-dire que vous allez voir dans le comportement des parents, ce sont peut-être eux qui ont eu à acheter le bulletin pour cet enfant et qui se retrouvent dans une classe où il ne peut pas réussir. Alors dans ces cas-là, ça ne servira pas pour les parents d'injurier l'enfant.
Oui, il y a oui, les parents considèrent beaucoup plus l'argent qu'ils ont eu à dépenser durant toute l'année pour, on a payé les frais scolaires, les frais de transport, tout ceci pour que l'enfant ait l'école, les cahiers, patati patata, c'est beaucoup de dépenses et à la fin, et l'enfant échoue.
C'est une irresponsabilité. On ne peut jamais envoyer l'enfant à l'école sans l'argent. Lorsque l'enfant est à l'école, il faut nécessairement débourser de l'argent pour payer les frais d'études. Mais sans pour autant considérer l'école primaire, puisque l'école primaire est obligatoire sous la responsabilité de l'État qui doit scolariser l'enfant. Mais les parents qui prend en charge la scolarisation de son enfant, il ne peut pas regretter l'argent investi. Ce qu'il doit faire, il doit préparer maintenant la réussite de son enfant. Il doit préparer la réussite. Lorsqu'on ne prépare pas la réussite, c'est l'échec qu'on prépare. Comment les parents doivent-ils préparer la réussite? C'est ce qu'il doit inscrire l'enfant dans la classe appropriée pour lui. C'est qu'il ne doit pas vouloir que l'enfant change intempestivement de classe. Et lorsque l'enfant ne change pas intempestivement de classe, c'est alors que les parents préparent la réussite. Mais si les parents n'agissent pas dans ce contexte-là, c'est l'échec qui doit être enregistré. Les parents doivent envoyer son enfant à l'école avec des objets classiques. Les parents doivent suivre la scolarité de son enfant, être en contact avec l'école. Et lorsque l'enfant est à la maison, il doit suivre, voir ce qu'il a fait au niveau de l'école et qu'est-ce qu'on lui a demandé. Si les parents ne le font pas, ils préparent la réussite. L'échec de son enfant. Et lorsque l'enfant échoue, alors il faut que chacun puisse définir sa part de responsabilité. Et souvent, ça peut aussi relever de la négligence des parents.
Professeur Yaoui dit, il y a certains parents qui n'acceptent pas l'échec, alors ils vont faire fabriquer un bulletin quelque part et ils vont inscrire l'enfant dans une autre école, dans une classe supérieure.
Oui, bon, en fait, on ne peut pas l'accepter, hein. On ne peut pas accepter l'échec parce que l'échec ne peut pas permettre à quelqu'un de passer des classes pour un enfant. Tant bien même que l'échec peut amener un individu à réfléchir sur lui-même, à voir encore qu'est-ce qu'il a commis comme gaffe de façon à ce qu'il puisse rectifier les tirs. Mais à ne pas accepter l'échec et adopter un comportement qui renforce encore l'échec, c'est ce qui est grave. C'est ce qui est grave. Vous n'avez pas accepté cet échec et vous achetez encore le bulletin pour que l'enfant se retrouve dans une classe supérieure alors qu'il n'a pas maîtrisé le programme de la classe antérieure. Ça, c'est renforcer encore l'échec de l'enfant.
Bien, nous avons un premier auditeur, Ngunz. Il nous appelle de Kolwezi dans la province du Katanga où on nous écoute grâce à la RCL, la radio communautaire libre de Kolwezi. Nous avons également Célestin Kabeya, qui nous appelle de Kananga. Vous voulez également participer, appelez-nous au 081-890-63-94.
Radio Capi, un partenariat entre la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien du gouvernement de la Belgique, des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse.
Comment encadrer un enfant qui a échoué à l'école? Ngunza, vous êtes à Kolwezi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jedi Daniel Kachama.
Quelle est votre préoccupation, Ngunza?
Moi, je voulais poser à notre invité quelles sont les méthodes qu'on peut appliquer pour aider, pour encadrer un enfant qui n'arrive pas à bloquer ces matières. Parce que moi, j'avais un ami. Lorsque vous vous rendrez quelque part là pour un peu étudier la matière, bon, vous allez même mettre 2h30 pour étudier. Vous allez étudier même dans 2h, les 30 minutes là, c'est pour se poser seulement des questions. Alors, si vous commencez à poser des questions, tu peux lui poser même 10 questions, lui, il peut réussir même à 2. Donc, il n'a pas bien bloqué, quoi, la matière qu'il a étudiée. Alors, quelles sont les méthodes que notre invité peut nous donner pour aider notre ami là?
Merci Ngunza. Célestin Kabeya de Kananga, bonjour.
Je passe directement à mes questions.
Oui.
J'ai ma jeune sœur, cette année, il a repris la 10e CO. Quand il était encore à l'école primaire, elle n'avait jamais réalisé un pourcentage plus de 55%. Si c'est beaucoup chez elle, c'était 54%. Arrivant à l'école secondaire, nous avons remarqué que elle devenait incapable de réaliser même son pourcentage habituel. Et pourtant, nous avons été à la maison. Mais elle est toujours en classe. Alors je demande à l'invité, qu'est-ce que nous devons faire réellement pour l'amener à réaliser ce...
Oui, Célestin, votre sœur, combien elle a obtenu à l'école cette année?
Bon, cette année, elle a fait 48%, mais elle a un enseignant qui l'encadre chaque jour à la maison à notre surveillance.
Donc elle a échoué cette année. Hein?
Elle a échoué cette année. Donc oui. Elle doit reprendre la deuxième. La deuxième question, je voudrais demander, est-ce que le fait de faire inscrire une fille dans une école mixte, par exemple, est-il aussi à la base de l'échec d'une fille, étant donné que dans un tel milieu, il y a multiples relations sexuelles qui se créent entre garçons et filles? Je vous remercie.
Bien, merci. Professeur Yaouidi.
Merci, je dois répondre aux questions de nos amis. Vous savez, l'autre dit que l'enfant a eu des difficultés pour mémoriser ses leçons et on s'étonne que lorsqu'on lui pose des questions d'évaluation, qu'il puisse répondre seulement à quelques-unes d'entre elles.
Oui.
Parce que c'est tout à fait normal. Vous savez, nous, chacun de nous a des aptitudes qui les caractérisent. Et lorsque nous allons dans les formes d'intelligence, si on peut considérer ce qu'un auteur américain a défini, Howard Gardiner, c'est des intelligences multiples. Nous avons nette forme d'intelligence chacun de nous, mais il y a une intelligence qui s'avère toujours être dominante. Il y a des gens qui ont une intelligence linguistique, ils ont la facilité d'expression, de communiquer. Alors lorsque vous mettez à leur disposition des questions d'évaluation explorant une autre forme d'intelligence, on ne peut pas s'attendre à ce que cet enfant puisse produire des bons résultats. Et on peut aussi pas considérer que tout enfant doit nécessairement avoir la même qualité de mémoire. Il y a des enfants qui ont des mémoires visuelles, il y en a qui ont des mémoires auditives, il y en a qui ont des mémoires kinesthésiques, il y en a des mémoires infidèles, il y en a des mémoires instables ou fidèles. Donc c'est question de considérer les aptitudes de l'enfant, de façon à pouvoir l'exploiter de bonne manière. Ça c'est le questionnement de notre société. Notre société arrive-t-elle réellement à pratiquer de l'orientation de façon à ce que chaque enfant puisse se retrouver dans une filière d'études, dans une classe qui correspond à ses capacités? Est-ce qu'il est lui qui a une forme d'intelligence logico-mathématique exploitant beaucoup plus les domaines mathématiques? Vous allez le situer, vous allez le placer dans une classe qui explore une autre forme d'intelligence telle que linguistique. Là-bas, il ne peut que présenter de faibles rendements. Donc, c'est question de savoir l'enfant du point de vue de ses aptitudes. Et là où vous le placez, ça exploite beaucoup plus quelle forme d'intelligence ou quelle forme d'aptitude.
D'accord. Avant de poursuivre, on va accueillir Roger de Kinshasa et Rachel qui nous appelle depuis Siro. Roger, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Je dis Daniel Kassama et bonjour Alain.
On vous écoute, Roger.
Oui. Je serai aussi dans le même sens avec nos auditeurs. Ce que je peux assurer comme un témoignage personnel, ce ne sera pas une question, mais ça sera une préoccupation personnelle.
Oui.
Moi, personnellement, quand j'ai arrivé dans la classe de 6e humanité, et la première fois, j'ai échoué. Je n'ai pas eu l'occasion de trouver mon diplôme. Et après les résultats, j'ai commencé à pleurer d'être indisposé parce que j'avais échoué. Et mes parents étaient là pour m'aider à me soutenir avec des conseils, des idées, avec des encouragements pour que l'année prochaine, que je puisse être toujours à mesure de surmonter encore les épreuves.
Oui.
Donc, ce que nous pouvons comprendre en est que, en tant que parents, nous sommes là pour aider nos enfants avec des conseils, avec des encouragements pour les aider qu'à la prochaine occasion, que l'enfant puisse se sentir à l'aise de pouvoir affronter d'autres choses que ça. Et les parents qui ne viennent pas à encourager leurs enfants, et cela devient un sujet de moquerie, cela ne pourra pas permettre aux enfants de pouvoir bien travailler ou de pouvoir améliorer leurs échecs. Et ce que nous pouvons comprendre, il y a deux principes, la réussite et l'échec. Et s'il y a l'échec, nous sommes là pour aider nos enfants. Et ce que je peux encore ajouter pour finir, s'il parvient qu'un enfant a échoué, je trouve normal pendant les 2 mois de vacances, on peut aider l'enfant à s'étendre aussi, aller chez ses parents, par exemple chez les tantes, l'oncle paternel ou paternel, de pouvoir être à l'aise, se sentir quand même à l'aise dans la famille et que l'enfant puisse se sentir que non, mes parents m'aiment beaucoup. Je pense que de cette façon, nous pouvons aussi aider nos enfants qui ont échoué et cela peut les aider à la prochaine pour qu'ils puissent réussir la classe. Merci beaucoup, je vous remercie.
Bien, merci Roger de Kinshasa. Rachel, vous êtes à Isiro, bonjour.
Allô, bonjour.
On vous écoute, Rachel.
Oui, merci, bonjour, c'est à l'invité. J'ai 2 petites questions à poser à l'invité. C'est la première question, avant de la poser, je voudrais dire un peu une chose que moi je vais remarquer ici. Des fois, vous voyez, l'enfant quitte l'école avant midi et en arrivant à la maison, on lui donne des histoires pour aller vendre. Alors, il va vendre jusqu'au soir, il rentre à la maison épuisé, il n'a pas eu le temps de revoir ses matières. Et le lendemain, il se réveille tôt pour aller à l'école. Dès qu'il rentre, c'est la même chose encore. Il va encore revenir pour aller vendre tout ça. Bon, à la fin des comptes, l'enfant échoue. Et il y a même de ces parents-là qui blâment l'enfant. Si l'enfant échoue, il blâme même l'enfant. Sans se rendre compte que s'il a fait échouer, c'est par sa faute. Il n'a pas donné l'enfant le temps d'étudier, de revoir. Mais chaque instant, il est là qui pour vendre. Dès qu'il rentre de l'école, il part pour vendre des histoires. Il rentre tard, puiser les soirs, tout ça. Et j'aimerais demander à l'invité, quel conseil peut donner au tel parent? Donc, le parent-là qui... Donc, qui n'ont pas le temps là, de laisser les enfants étudier. Si l'enfant rentre, ils donnent des stops pour aller vendre. La deuxième question, il m'a pas savoir ce conseil peut donner aux parents, les parents qui favorisent les bêtises des enfants, de les faire monter. La fin, même si l'enfant échoue, de les faire monter. Vous savez, il y a un mot que les gens utilisent ces derniers temps, disent que non, l'année passe ou passe. Donc, même si vous échouez ou vous réussissez, l'année passe, vous passez seulement. Quel conseil peut donner aux parents qui encouragent de telles bêtises?
Oui, qu'est-ce que ces parents encouragent exactement?
Donc, même si vous reprenez la salle, l'année prochaine, vous allez monter la salle. Ils cherchent à faire des dossiers pour qu'ils puissent monter la salle.
D'accord, c'est vos parents qui vont faire fabriquer des butins pour que l'enfant passe dans la classe supérieure, dans une autre école. Ils changent carrément d'école. Dieudonné, vous êtes à Walikale, bonjour.
Oui, bonjour, aujourd'hui, bonjour aux auditeurs de la radio Capi, très précisément ce que nous captons ici à Moubi.
Bien, merci, un coucou à tous les auditeurs de Moubi. Quelle est votre préoccupation?
Merci beaucoup, monsieur Jody, vraiment, je suis heureux de vous retrouver de cette émission. Laisse-moi vous dire que nous avons un problème très sérieux ici chez nous, puisque vraiment, nos enfants qui fréquentent récemment les études font école buissonnière. Donc je ne sais pas moi-même qui vous parle, je suis enseignant. Je suis enseignant dans une école que je ne vais pas citer le nom. Et vous trouverez les enfants à la récréation, et les enfants rentrent à la maison. Et quand ces enfants rentrent, il y a vraiment les matières qui seront enseignées par certains enseignants. Et ces enfants ne sont pas là. Mais allez voir monsieur Jogui. Ici, à la fin de l'année, il y a certains enfants qui ont échoué, mais c'est tout un problème très sérieux. Il y a même le parent qui voulait courir derrière les enseignants. C'est ça le problème que nous en avons. Maintenant, je vais poser une question à l'invité. Même s'il y a problème de frais aujourd'hui, pour dire que notre État aussi n'encadre pas, ne paye pas les enseignants, oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces parents prennent leurs responsabilités? C'est ça ma préoccupation aussi aujourd'hui.
Merci, Dieudonné de Walikale. Aloïs, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour. Bonjour, monsieur. Jeudi, Daniel Kachama. Bonjour, en fait, Olivier.
Oui, quelle est votre préoccupation, Aloïs?
Merci bien. J'ai des petites questions à poser à l'invité. Mais d'entrée de jeu, nous savons que l'échec de l'enfant est une responsabilité partagée. Elle est la cause des manques de préparation de l'enfant tout au long de l'année.
Oui.
Alors, ma première question était celle de savoir quelles sont les techniques à mettre en œuvre pour détecter les causes de l'échec d'un enfant afin d'y remédier. La deuxième question est la dernière. En pédagogie, on classifie bien les mémoires telles que l'invité l'a eu à les signaler.
Mmh.
Et très souvent, on classe les niveaux en trois catégories. Nous avons les niveaux faibles, les niveaux moyens ainsi que les niveaux forts. À ce moment-là, l'enseignant à l'école représente les parents. En vue de contribuer aussi à la réussite de ses enfants qu'il encadre au sein de sa classe, par exemple, quel est le niveau entre les trois que l'enseignant doit adapter au niveau de sa méthodologie d'enseignement? Merci.
Bien, merci Aloïs. Professeur Yaouidi, vous avez suivi toutes ces préoccupations. Oui. Revenons à Célestin de Kananga qui nous a parlé de sa sœur qui a échoué. Elle a repris la deuxième CO avec 48%. Avant, elle arrivait à avoir 50%, mais aujourd'hui, elle n'arrive plus à faire ce pourcentage. Elle a eu 48%. Alors, il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, comment l'aider pour qu'elle puisse réussir l'année prochaine.
Oui. Ok, merci beaucoup pour la question qui a été posée par l'auditeur. Vous savez, là, il s'agit d'un cas de baisse de régime, au mauvais rendement réalisé au fur et à mesure que l'enfant est en train de passer des classes. Et vous savez, une des causes peut être l'avance scolaire. L'enfant, quand est-ce qu'il a été inscrit en première année primaire? Il y a certains parents, eux, au lieu de considérer l'âge révolu pour être inscrit en première année primaire, ils faussent toutes les notes. Et l'enfant se retrouve en première année primaire, parfois à 4 ans ou à 5 ans. Et cet enfant-là est en train d'obtenir, il peut réaliser de bons résultats, mais à un certain moment, il sera bloqué, il ne peut plus produire de bons rendements.
Oui, professeur Yaouidi, un complément, il dit que ce n'est pas le fait qu'elle étudie dans une école mixte, elle est distraite par les garçons. Voilà, elle n'arrive plus à bien travailler à l'école.
Non, il est toujours encouragé que les filles et les garçons étudient ensemble. Hein, que ces systèmes de collège où on peut retrouver que des garçons et les systèmes de lycée où on peut trouver que des filles. Bon, c'est souvent, ça aboutit à certains comportements de déviation, hein, surtout du point de vue sexuel. Mais il est encouragé parce que le contact des garçons-filles dans une même classe est très important pour l'ambiance, l'ambiance psychologique et l'équilibre psychologique, soit du garçon ou de la fille. Ce n'est pas le fait d'être avec les filles ou d'être avec les garçons qui peut influencer négativement un individu.
Voilà. Roger Dekinch, alors comment aider sa sœur? Qu'est-ce qu'il doit faire concrètement pour que sa sœur réussisse l'année prochaine?
Donc, c'est-à-dire que pour aider la sœur qui a échoué, c'est-à-dire qu'il faut identifier d'abord qu'est-ce qui a fait qu'il puisse échouer. Si la faute se retrouve au niveau de la sœur, hein, par le fait qu'elle n'a pas été assidue, c'est alors maintenant on doit lui imposer un autre rythme pendant les vacances. Mais il ne faut pas que ça soit maintenant qu'on vient d'éviter les vacances, qu'on puisse commencer à lui faire reprendre ce qu'il a eu à suivre au niveau de l'école. Il faut attendre encore des semaines avant la rentrée pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse s'occuper de cette sœur-là. Soit un précepteur, ce serait mieux. Parce que le précepteur est celui qui identifie d'abord les niveaux scolaires de la personne, de façon à voir quelles sont ses faiblesses. Est-ce qu'il a des prérequis? Parce que si la sœur doit reprendre la deuxième année secondaire, est-ce que cette sœur présente dispose-t-elle des prérequis pour étudier dans cette classe-là et réussir dans cette classe-là de deuxième secondaire? Si elle n'a pas de prérequis suffisantes, c'est que le rôle du précepteur, c'est niveler le niveau de cette sœur-là de façon à lui permettre de réussir sa scolarité l'année prochaine. Mais si la faute incombe aux parents par le fait de manque de suivi de la scolarité de cette fille, il y a eu beaucoup plus incertain laisser aller du poids de la part des parents. Les parents n'ont qu'à se remettre en cause de façon à voir dans quelle mesure ils doivent suivre la scolarité de l'enfant. Et si les problèmes se situent au niveau de l'école, la fille n'a pas été bien encadrée au niveau de l'école, c'est question de voir dans quelle mesure on pourra maintenant, soit par le contact avec l'école, rectifier les tirs, soit faire en sorte que l'enfant soit inscrit dans une école qui sera beaucoup plus qualifiée pour suivre la scolarité de cette fille-là.
D'accord. Avant de poursuivre, on va accueillir Prosper Namegabé. Il nous appelle de Walikale au Nord Kivu. Prosper, bonjour.
Oui, bonjour, messieurs les journalistes.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, oui. J'ai à intervenir à ce qui concerne l'échec des enfants. Je trouve que les enfants, la plupart ici dans le milieu rural, l'échec est causé par la non-encadrement de l'État. L'État n'encadre pas les agents convenablement. Vous trouverez que beaucoup d'enfants sont des fois chassés de l'école, ils passent une semaine au village, ils ne parviennent pas à revenir pour récupérer les cours. Et une fois les interrogations passent durant cette période, vous trouverez que l'enfant vraiment est prêt d'avoir l'échec à propos de ce sujet.
D'accord, merci Prosper qui nous révèle que là-bas, Walikale, et si beaucoup d'enfants échouent, c'est parce qu'ils sont chassés, les parents n'ont pas payé les minervales, alors ils ratent les interrogations, ils ratent beaucoup de choses, et après, à la fin de l'année, les échecs sont enregistrés. Roger de Kinshasa nous a donné son témoignage tout à l'heure, il avait échoué en sixième année, secondaire, des humanités, mais ses parents l'ont encouragé, les parents l'ont aimé, et ça l'a aidé à s'améliorer. Aimé, d'Issiro nous dit ceci: certains parents sont à la base des échecs de leurs enfants. Par exemple, à Issiro, ils envoient les enfants aller vendre jusqu'à tard. Ils n'ont pas le temps d'étudier et à la fin, les enfants échouent et puis on va les blâmer. Quel conseil l'invité peut donner à ce genre de parents, professeur Yaouidi?
Oui, les parents doivent savoir que l'échec a des conséquences négatives du point de vue psychologique. Parce que l'enfant qui a échoué peut devenir agressif. Et quand il devient agressif, lorsque vous ne savez pas comment agir à son égard, ça serait que vous allez être en train de perdre l'enfant du fait qu'il ne pourra pas s'engager encore à relire ses notes et à s'engager à sa scolarité. L'échec de l'enfant peut l'amener à avoir à cultiver une faible image de soi ou une mauvaise image de soi, être complexé, avoir des complexes d'infériorité, et l'enfant peut être stressé, l'enfant peut être frustré, l'enfant peut être insécurisé psychologiquement. C'est à cause de ces éléments psychologiques, de ces conséquences psychologiques que les parents n'ont pas encore à enfoncer davantage l'enfant. Alors, les seuls comportements que les parents doivent manifester, c'est de comprendre à quel niveau se situe la responsabilité. À quel niveau se situe la responsabilité? Est-ce du côté de l'enfant? Est-ce du côté des parents? Est-ce du côté de l'école? Est-ce du côté de l'État? L'État aussi a une grande responsabilité, telle qu'il vient d'être évoqué par un des auditeurs.
Oui.
L'État a une grande responsabilité parce que l'échec de l'élève, l'échec des élèves à l'école est l'échec de la société. Et lorsque la société échoue, et la société ne peut produire que des échouants. Alors, il faut nécessairement que l'État congolais puisse veiller à mettre à disposition de notre société un système éducatif. Parce que ce que nous avons n'est pas un système éducatif congolais. C'est de l'emprunt. Nous continuons avec les programmes de la colonisation. Mais il faut un système éducatif qui doit permettre à ce que tout soit mis en place de façon à ce que ceux qui vont à l'école puissent réellement réussir leur scolarité dans le sens qu'ils soient utiles à eux-mêmes et qu'ils soient utiles à la société. Il faut nécessairement qu'il y ait un engagement du côté des parents à suivre la scolarité de leurs enfants, à faire de l'école de leurs enfants leur école. Il faut aussi que les enseignants soient davantage motivés pour que l'action pédagogique engagée sur les enfants puisse être efficace. Si du côté de l'enseignant il n'y a pas de motivation, on ne peut récolter que de l'échec. Il faut aussi une bonne perception de l'école par les enfants. Si les enfants ont une mauvaise perception de l'école, souvent ils arrivent à l'école, ils sont chassés de l'école, alors ils cultivent une mauvaise image de la société. L'apprentissage ne peut pas se réaliser dans un contexte de plaisir. Mmh. L'apprentissage doit se réaliser dans un contexte de frustration. Dans ce contexte-là, les parents, vous allez constater qu'il y a des enfants qui vont aller dans l'école buissonnière où ils doivent commencer à figuer. Donc, il y a aussi du côté de l'organisation matérielle de l'école. Les enfants étudient dans quelles conditions? Dans des salles de classe où il n'y a pas d'aération, toutes les conditions sont réunies pour que les enfants puissent ne pas présenter de bons résultats. Alors, il faut que l'État veille à ce que l'école puisse être viable pour travailler pour la réussite des élèves.
Oui. Alors, on a suivi Dieudonné de Walikale qui dit que à Walikale, bon nombre d'élèves, certains élèves échouent parce qu'ils aiment bien faire l'école buissonnière. À la récré, tous les enfants disparaissent. Certains rentrent à la maison, d'autres vont s'amuser. Alors, il pose la question de savoir quelles sont les techniques qui peuvent aider à détecter les causes de l'échec. Parce que vous avez dit, pour aider un enfant qui a échoué, il faut connaître d'abord les causes de son échec.
Oui. Mais l'école buissonnière, faire déjà l'école buissonnière, c'est déjà la cause de l'échec. Parce que l'enfant est irrégulier à l'école. Et comme il est irrégulier à l'école, il n'a pas de notes. Soit il a des notes incomplètes. Il ne saura pas répondre aux questions d'évaluation de l'enseignant. Mais c'est question maintenant de savoir pourquoi il y a école buissonnière. Pourquoi il y a refus pour les enfants de fréquenter l'école. Pourquoi il se fait que les enseignants, l'enfant qui est à l'école à 10h30 pendant la récréation, tous rentrent à la maison. Il se poserait un problème peut-être de discipline au niveau de l'école. Et que font les enseignants pendant que tous les enfants retournent à la maison alors qu'il n'était pas, il leur avait pas été demandé de retourner à l'école. Ce qui se pose un problème d'organisation, de discipline au niveau de cette école-là.
Voilà, il y a un problème de discipline et une autre question, il y a un auditeur qui a parlé, c'est un enseignant, c'était un enseignant sûrement, il a parlé des enfants qui ont des niveaux différents, certains ont un niveau faible, moyen et fort. Alors comment adapter l'enseignement par rapport à ces différents niveaux?
Oui, mais il y a une solution avec les classes parallèles, puisque vous savez qu'il faut favoriser à ce que les enfants qui se retrouvent dans une même catégorie puissent étudier dans une même classe de façon à ce que la méthodologie utilisée par l'enseignant puisse être appropriée. Lorsqu'on se retrouve plus dans une classe hétérogène, souvent l'enseignant qui est affamé et pourra s'intéresser uniquement aux enfants qui présentent de bonnes aptitudes et qui suivent facilement les leçons et qui comprennent facilement. Et les autres enfants risquent d'être abandonnés à eux-mêmes. C'est pour cela qu'il faut nécessairement que dans une classe, que l'enseignant puisse occuper une classe dont le profil correspond à son profil. Mais s'il n'y a pas correspondance entre le profil de l'enseignant et le profil de la classe, ça pose toujours un problème dans l'encadrement des enfants parce que le choix de la méthode à utiliser pour faciliter la compréhension et l'assimilation des matières poserait vraiment problème.
Bien, alors on retient, professeur Yaoui dit pour terminer, que lorsqu'un enfant échoue, il ne faut pas le culpabiliser, il ne faut pas le réprimander ou le punir, mais l'encourager et lui montrer beaucoup d'amour et ça va l'aider à mieux faire, à augmenter ses performances l'année prochaine.
Oui, mais il faut aussi un engagement. Il n'y a pas seulement encourager l'enfant, il y a aussi un engagement de la part des parents à pouvoir faire ce qu'ils sont censés faire dans l'encadrement de l'enfant. On peut bien encourager l'enfant, on ne les culpabilise pas. Mais maintenant, le comportement des parents ne suit pas. Lorsque le comportement des parents ne suit pas à ce qui concerne le suivi de la scolarité de l'enfant, lorsqu'on pose aux parents la question « Où étudie votre enfant ?», les parents est même incapable de situer, de donner même le nom de l'école ou de situer l'emplacement géographique de l'école. À ce niveau-là, l'enfant lui-même perçoit une certaine négligence de la part des parents. Et donc, ce qu'ils ont dit n'aura pas d'efficacité parce que l'enfant suit non seulement ce que les parents disent, mais ce qu'ils sont en train de faire.
D'accord. Professeur Yaoui Dimanizambi, spécialiste en sciences de l'éducation, nous vous disons merci et à la prochaine.